Aujourd'hui, on parle du Deutéronome. On continue notre traversée de la Bible. On a pris un petit peu de retard, mais en même temps, on est sur le Pentateuque, c'est quand même un peu indispensable. Alors, le Deutéronome, c'est quoi? C'est le cinquième livre du Pentateuque. On l'appelle le Deutéronome en français, ça vient du grec, ça veut dire deuxième loi ou répétition de la loi, parce qu'effectivement, quand on lit le Deutéronome, ça a un air de déjà-vu. Vous avez lu le Deutéronome, vous avez vu... aux lectures quotidiennes, que finalement, on retrouve les 10 commandements, on retrouve des lois pour les Lévites, on retrouve les fêtes religieuses, etc., etc. Et par certains aspects, on peut trouver ça un petit peu ennuyeux, même, en disant, enfin, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu, finalement, essayer de synthétiser tout ça et d'avoir tout en un? Dans une certaine mesure, c'est peut-être justement ce que le Deutéronome cherche à faire. Le Deutéronome justifie le fait que c'est une répétition par les premiers chapitres. Au début, on nous explique que, au chapitre 1er, ce sont les paroles que Moïse adressa à tout Israël en Transjordanie. On nous dit où est-ce que ça se place, juste avant d'entrer, verset 3, dans la 40e année, le premier jour du 11e mois. Donc la 40e année, c'est la 40e année de quoi? 40e année? Non. Ben oui, de l'Exode, c'est ça. Ça fait 40 ans qu'ils ont quitté l'Égypte et qu'ils tournent en rond dans le désert. Et donc, en fait, rappelez-vous ce qui s'était passé. Dans le livre des Nombres, quand on avait envoyé les espions explorer la Terre Sainte, le pays de Canaan, ils avaient dit « Ah, c'est formidable, mais voilà, il y a un problème, il y a des géants, on va se faire massacrer. » Et puis seuls 2 espions sur les 12, 2 représentants des 12 tribus, avaient dit « Mais non, on peut y aller parce que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, on va y arriver. » Et les autres ont dit « Non, 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 on aurait mieux fait de rester en Égypte, d'ailleurs on devrait y retourner, etc. » Et donc finalement, le peuple étant incrédule, Dieu leur dit « Écoutez, vous ne voulez pas y aller, eh ben, très bien, tant pis pour vous, vous n'irez pas, vous allez donc mourir dans le désert. Seuls les 2 espions, les 2 représentants Josué et Caleb, eux, entreront en terre promise, vous allez mourir dans le désert et on va attendre la nouvelle génération. Donc on va attendre que vous soyez tous morts et que vos enfants qui sont là soient devenus adultes et ce sont eux qui entreront en terre promise. » Et ben voilà, on y est. Précisément, on est là 40 ans plus tard. Et donc, cette nouvelle génération, Moïse s'adresse à des gens qui, voilà, c'est la nouvelle génération, ils sont nés dans le désert, ou ils ont grandi dans le désert. Et donc, d'une certaine manière, ils ont besoin qu'on leur rappelle un certain nombre de choses. Donc, c'est pour ça, c'est la façon dont on justifie le fait qu'on retrouve un peu du copier-coller avec ce qui a été dit précédemment. On dit, mais non, mais là, voilà, c'est différent, c'est parce que le Deutéronome, Moïse redit la même chose, mais à la nouvelle génération, on est à la fin de l'Exode. On s'apprête à franchir le Jourdain et à prendre possession de la terre promise. Alors, en réalité, quand on regarde la structure de Deutéronome, on se rend compte qu'il est très différent de ce qu'on a vu précédemment. Il y a des éléments caractéristiques, des expressions qui reviennent, des points sur lesquels on insiste, qui sont en fait caractéristiques du Deutéronome. Et on se rend compte également que le cœur du Deutéronome, en fait, ce sont les chapitres 12 à 25 ou 26, disons, qu'on appelle d'ailleurs le code deutéronomique, et que ce noyau, ce cœur, qui a dû être rédigé en premier, a ensuite été encadré par des discours d'introduction et de conclusion. C'est-à-dire qu'on rédige d'abord ce qui est au centre, je vous avais déjà expliqué, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, on a d'abord la partie centrale, et puis ensuite, on a un premier discours au début et puis un discours à la fin. Et puis ensuite, on ajoute encore un premier discours au début et encore un premier discours à la fin. Ce qui fait que vous avez plusieurs discours d'introduction et vous avez plusieurs discours de conclusion. Les discours de conclusion, ce sont les dernières paroles que Moïse prononce avant de mourir. Il convoque le peuple, il fait tout un discours, et puis on se dit, ça y est, c'est fini, il meurt. Ah ben non, en fait, finalement, il reconvoque le peuple, il y a encore un discours, et puis il y a encore autre chose, et puis encore un discours, et puis encore, et puis il finit quand même par mourir à la fin. Mais donc, c'est quand vous regardez la structure, c'est un peu ça que ça donne. Alors, si vous regardez ce noyau central, donc les chapitres 12 à 26, ce qu'on repère qui est caractéristique dans ces chapitres, c'est la centralisation du culte. Ici, on ne s'intéresse pas au sanctuaire dans le désert. On s'intéresse... Parce que finalement, c'est ça. Hein. Je veux dire, jusqu'à présent, le sanctuaire, il est mobile, on se balade avec. Il y a eu la question des tribus transjordaniennes. Elles vont s'installer donc de l'autre côté du Jourdain. Elles vont quand même rentrer en Cisjordanie pour faire la guerre avec les autres, mais ensuite elles vont rentrer chez elles. On verra dans le livre de Josué que se posera la question de bâtir ou non un hôtel de l'autre côté du Jourdain. Donc se pose la question de dire finalement où est-ce qu'on adore Dieu. Est-ce que Dieu, Yahvé, hein, quand je dis Dieu c'est Yahvé, est-ce que Yahvé peut être vénéré à plusieurs endroits ou pas? Et sinon, où? Et alors vous avez une expression caractéristique qui revient où il est question du lieu que Dieu choisira pour y faire demeurer son nom. Je vais regarder rapidement chapitre 12, verset 5. Vous le chercherez, donc il s'agit de Yahvé, vous chercherez Yahvé seulement au lieu que Yahvé, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom et l'y faire demeurer. C'est là que tu iras. C'est là que vous apporterez vos holocaustes, vos sacrifices, etc. C'est là que vous mangerez, blablabla. On explique bien, attention, hein, qu'il y aura un lieu et un seul. Verset 11, c'est au lieu que Yahvé, votre Dieu, choisira pour y faire demeurer son nom que vous apporterez. Verset 14, c'est seulement au lieu que Yahvé choisira. Enfin, on a compris, quoi. Verset 18, c'est seulement devant Yahvé, ton Dieu, au lieu que Yahvé, ton Dieu, choisira que tu y mangeras, etc. etc. Verset 21, si le lieu que Yahvé, ton Dieu, aura choisi est trop éloigné, blablabla. Bla, bla. Mais on explique bien. Hein. Pas question d'aller à différents endroits. Donc là, c'est juste le chapitre 12. Mais en fait, si vous regardez, tout au long des chapitres qui suivent, on retrouve régulièrement cette mention du lieu que Yahvé choisira. Exemple, chapitre 14, verset 23, « Tu mangeras devant Yahvé, ton Dieu, au lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom. » Si vous tournez les pages, c'est... Voilà. C'est récurrent. Chapitre 15, par exemple, verset 20, il est question encore du lieu que Yahvé choisira. Chapitre 16, verset 2, le lieu que Yahvé choisira pour y faire demeurer son nom. Verset 6, c'est au lieu que Yahvé, ton Dieu, choisira pour y faire demeurer son nom que tu sacrifieras la Pâque. Verset 11, au lieu que Yahvé, ton Dieu, choisira pour y faire demeurer son nom. Enfin voilà, je pourrais continuer. Là, j'en suis qu'au chapitre 16, je pourrais continuer, tourner les pages. Donc si vous regardez la caractéristique du code deutéronomique, c'est vraiment la centralisation du culte au lieu que Yahvé choisira. Alors, c'est lequel ? C'est quoi ce lieu ? C'est Jérusalem. C'est évident pour tout le monde. C'est évident pour tout le monde a posteriori. Nous, on sait. Mais pour l'instant, à vrai dire, Jérusalem, on ne connaît pas. On n'y est pas encore allé. On n'a pas encore conquis la ville. Enfin, on en parlera un peu dans le livre de Josué. D'ailleurs, ce sera très compliqué puisque la ville de Jérusalem, tantôt elle est prise, tantôt elle n'est pas prise. Et puis finalement, à l'époque de David, bon là, il la prend vraiment, et on a l'impression que ça y est, c'est vraiment prise, il en fait sa capitale. Mais la place de Jérusalem est assez ambiguë. Alors, ce qui est très intéressant quand on étudie les Deutéronomes, c'est qu'on a une autre... on a d'autres manuscrits. Là, les manuscrits qu'on a, je vous disais, on traduit à partir du codex de Leningrad, un manuscrit du XIe siècle de notre ère, qui est la plus ancienne Bible hébraïque complète. Mais en réalité, à peu près de la même époque, on a d'autres manuscrits tout aussi complets qui ne contiennent que le Pentateuque et qui viennent de Samarie, qui sont des manuscrits, alors non pas des Judéens, mais des Samaritains. Donc pas la Judée, mais la Samarie. Les Judéens, on appelle, enfin, ce sont ceux qu'on appelle les Juifs aujourd'hui, en fait. Le mot juif, même en grec, hein, c'est les Judaïoi, ce sont les Judéens, littéralement. Donc vous avez la Judée, puis vous avez la Samarie. Et donc en Judée, il y a des manuscrits, en Samarie, il y a des manuscrits. Alors les Bibles les plus complètes, le Codex de Leningrad, en fait, a été copié, pas en Judée, il a été copié à Tibériade, en Galilée, mais c'est la tradition judéenne, disons, juive. Alors que les Samaritains, eux, assez vite, se sont démarqués. D'abord, ils n'ont que le Pentateuque, quelques autres livres éventuellement, mais pas, disons, ils ne sont pas déterminés sur un canon comme l'ont fait les rabbins. Et quand on regarde le livre de leur livre du Deutéronome, qui est en hébreu, hein, eh bien, on a la surprise de voir que tous ces versets que je vous ai cités, où on a le lieu que le Seigneur ton Dieu choisira pour y faire demeurer ton nom, c'est pas de l'inaccompli, c'est pas le lieu qu'il choisira, c'est le lieu qu'il a choisi. En hébreu, Bachar et pas Yéphrar. Donc le lieu que Yahvé ton Dieu a choisi. Alors je dis, lequel ? Eh bien, il est mentionné, figurez-vous, un peu plus tôt dans le livre de Deutéronome, et on nous dit c'est le mont Garizim. Alors cette polémique entre Garizim et Jérusalem, vous la connaissez, et donc entre les Judéens et les Samaritains, vous la connaissez bien si vous avez lu le Nouveau Testament. Il y a l'histoire dans Jean chapitre 4 de la femme samaritaine. Jésus passe par la Samarie et là il rencontre une femme. Et il y a ce dialogue avec cette femme. Alors je vous invite à lire ça dans Jean chapitre 4. Et la femme l'interpelle en disant « Toi, vous les Judéens, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut vénérer Yahvé, mais nous, on nous dit que c'est sur le mont Garizim. » Et Jésus répond en disant, d'une part, qu'il confirme, lui, sa position de Judéen en disant « c'est Jérusalem », mais d'un autre côté, il embraye immédiatement en disant « l'heure vient et elle est déjà là », ou « c'est en esprit, en vérité ». C'est là qu'il dit hein, « le Père cherche des adorateurs et ceux qui l'adorent sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité ». Donc finalement, la question de la localisation géographique importe peu. Mais donc, dans le livre de Deutéronome, on a cette polémique. Alors, on a longtemps cru que cette version samaritaine du Pentateuque était moins fiable, parce qu'on dérive de cette tradition rabbinique, et même les chrétiens disent, de toute façon, nous, voilà, on traduit à partir de la Bible hébraïque des rabbins, donc, voilà, c'est samaritain, c'est bizarre, c'est une secte, ils sont bizarres. Bon, donc, on ne veut pas entendre parler. Seulement, voilà. Et on pensait que les manuscrits étaient tardifs et tordus. On disait, on a falsifié les Samaritains, ont changé volontairement le Deutéronome pour le mettre à leur sauce, et ils ont inséré la mention de Garizim, etc. Sauf que les affaires sont plus compliquées que ça. Quand vous lisez le Deutéronome lui-même, vous vous rendez compte que le mont Garizim a bien une place. D'ailleurs, chapitre 11, verset 29, « Tu prononceras la bénédiction sur le mont Garizim. » Alors je dis, tiens, comment ça se fait? D'où est-ce que ça vient, cette bénédiction sur le mont Garizim? Chapitre 11, verset 29. Et la bénédiction sur le mont Ebal. Et d'ailleurs, vous retrouvez la même chose au chapitre 27, c'est l'encadrement. Je vous disais que chapitre 12 à 26, c'était le cœur, le code deutéronomique. Le chapitre qui précède, c'est chapitre 11. Le chapitre qui suit, c'est chapitre 27. Les deux, comme par hasard, parlent du mont Garizim. Et là, de la même manière, vous avez toute une cérémonie au chapitre 27 avec bénédiction sur le mont Garizim et malédiction sur le mont Ebal. Donc, dans la version judéenne, rabbinique, massorétique du Deutéronome, on a malgré tout, en creux, la centralité du mont Garizim et la bénédiction sur le mont Garizim. Donc, ça prouve bien que le Pentateuque samaritain, on dit c'est le Pentateuque samaritain, ce Pentateuque samaritain, il n'est pas forcément plus tardif, falsifié, que le Deutéronome rabbinique qu'on a sous les yeux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que parmi les manuscrits de la Mer Morte, vous savez que les manuscrits de la Mer Morte ont été découverts au milieu du XXe siècle, et que d'un seul coup, ils nous mettent sous les yeux des manuscrits bibliques 1000 ans plus anciens que le Codex de Leningrad ou le Pentateuque samaritain. Donc là, avant, on travaillait avec des manuscrits 11e, 12e, 13e siècle de notre ère, et là, d'un seul coup, on travaille avec des manuscrits qui sont du tournant de notre ère. Donc on fait un bond de 1000 ans en arrière. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Alors, des manuscrits du Deutéronome, il y en a à l'appel. À vrai dire, le Deutéronome, c'est le livre le plus attesté à Qumran après les psaumes. Les psaumes arrivent en tête, une quarantaine d'exemplaires des psaumes, et le Deutéronome, pratiquement une quarantaine aussi, un peu moins, mais plus d'une trentaine d'exemplaires du Deutéronome. Donc, c'est un best-seller. Et parmi les manuscrits du Deutéronome, on en trouve qui correspondent à cette version dite samaritaine. Or, on n'est pas du tout en Samarie. Qumran, on est bien en Judée. Et ces manuscrits ne sont pas écrits avec l'écriture samaritaine. Parce que bon, les Samaritains ont une forme d'écriture. Vous savez, la forme d'écriture permet souvent de déterminer l'origine géographique des manuscrits. Avant l'exil, on distingue une écriture phénicienne, araméenne, israélite, etc. etc. Donc les Samaritains développent leur propre écriture. Si vous montrez un manuscrit, je peux vous dire « Ah, ça c'est l'écriture samaritaine ». Mais ces manuscrits qu'on a trouvés à Qumran, du Deutéronome, ne sont pas. Ils sont en écriture judéenne. Donc voilà des manuscrits en écriture judéenne, découverts en Judée, au tournant de notre ère, et qui, pour certains, correspondent à la version que l'on connaissait et qui était samaritaine. Alors ça commence, du coup tout ça, ces données s'accumulent, ce qui fait que ces dernières années, là ce que je vous dis c'est l'état de la recherche actuelle, on en est aujourd'hui à se dire finalement, la version samaritaine du Deutéronome n'est peut-être pas la plus tardive, c'est peut-être même la plus ancienne. Le livre du Deutéronome lui-même, finalement, pourrait bien provenir de Samarie. C'est-à-dire que, donc ça c'est les théories sur la rédaction du Pentateuque, c'est-à-dire de dire... D'un côté, vous avez des livres comme l'Exode, le Lévitique, etc., qui auraient été rédigés en Judée. Et puis de l'autre, vous auriez le Deutéronome qui aurait été rédigé dans le Nord et qui aurait été rapatrié dans le Sud. Alors à quel moment on peut discuter, mais vous savez qu'à un moment donné, le royaume du Nord disparaît, le royaume de Samarie. Ah oui, alors il faut peut-être le préciser, parce que je mets toujours, évidemment, Garizim et Jérusalem, Samarie et Jérusalem. Mais vous savez que cette opposition entre Samarie et Jérusalem, elle n'est pas uniquement d'un point de vue religieux. Il ne s'agit pas juste de la centralité du culte. Il s'agit aussi du pouvoir politique. On y viendra, évidemment, j'anticipe, mais après Salomon, quand on va lire le livre des rois, vous allez voir qu'après Salomon, il y a un schisme entre le fils de Salomon, Roboam, qui est le successeur désigné de Salomon qui doit prendre le pouvoir à Jérusalem, et puis un coup d'État orchestré par Jéroboam, qui lui veut prendre le pouvoir, et du coup, il va rallier à sa cause 10 tribus israélites, et seules 2 tribus vont rester à Jérusalem, ce qui fait que finalement, il va y avoir 2 royaumes. Au lieu d'avoir le royaume qu'on appelle la monarchie unifiée, le royaume unifié, donc époque de David et Salomon, pour lesquels on a peu d'informations historiques, pour ne pas dire aucune. Ensuite, on va avoir 2 royaumes, l'un au nord et l'autre au sud. L'un aura sa capitale à Samarie, alors pas tout de suite, c'est Omri qui va fonder la capitale dans la ville de Samarie, et puis l'autre qui aura pour sa capitale Jérusalem. Donc, d'un côté, vous avez la ville de Samarie, qui est entre le mont Ebal et le mont Garizim. C'est la ville de Naplouse, aujourd'hui, en Cisjordanie. Naplouse, ça vient de Néapolis. Donc, en hébreu, c'est Shrem, la ville de Shrem, Sichem, qui ensuite sera renommée Néapolis à l'époque grecque, et ça va donner Naplouse en arabe, qui est donc le Nablouse, qui est le nom arabe moderne de la ville. Et donc cette ville, elle est dans un couloir. Enfin, il faut y aller, c'est très impressionnant. Elle est vraiment... Vous avez le mont Ebal et le mont Garizim. Au milieu, vous avez une sorte de couloir, presque une sorte de canyon un peu évasé. Et c'est là que vous avez la ville de Naplouse. Donc c'est sûr que quand on est en plein milieu et qu'on a de part et d'autre, on lève les yeux et on a d'un côté le mont Garizim, le mont Ebal. Voilà. Et sur le mont Garizim, il y a bien effectivement un temple. Oui.
Pourquoi est-ce qu'il fallait construire la réduction sur le mont Ebal?
Oui, alors ça, bon, on en reviendra tout à l'heure si on a le temps. Mais bon, on peut se poser la question pourquoi le mont Ebal n'est pas le mont Garizim, etc. Ça, il y a des traditions qui nous échappent. Mais disons, alors on y reviendra tout à l'heure, parce qu'on va revenir sur le chapitre 27. Mais... Donc d'un côté, quand on parle de Garizim et Ebal, évidemment, le lieu central, la ville, c'est Samarie. Alors que de l'autre côté, il y a Jérusalem. Donc vous avez, pendant plusieurs siècles, on va dire entre le 10e et le 8e siècle, vous avez 2 royaumes. Vous avez un royaume au nord et un royaume au sud. Alors le royaume du nord va disparaître à la fin du 8e siècle, à l'époque néo-assyrienne. Bon, la population va être déportée. Et toute une partie de la population va fuir et venir au sud, chez les cousins, en Judée. Et donc, il est possible qu'ils aient amené avec eux un certain nombre de traditions, et notamment des traditions liées au Garizim et à l'Ebal. Et ces traditions, on les retrouve dans le Deutéronome. Donc, c'est peut-être donc la version samaritaine du Deutéronome n'est peut-être pas une version tardive, falsifiée du Deutéronome, au contraire. Alors... voilà grosso modo pour ce qu'on peut dire globalement sur le livre du Deutéronome, ses origines possibles, son intégration et sa place actuelle dans la Bible. Alors on va maintenant revenir un peu plus en détail sur chacun des chapitres. Je disais donc au début, les premiers chapitres se présentent comme un discours de Moïse à la nouvelle génération. Il commence par faire un rappel historique. Il explique ce qui s'est passé. Regardez au chapitre 1er. Il dit, vous avez tout ça au passé, hein, verset 15, « J'ai pris ceux qui étaient à la tête, je les ai mis, blablabla. » En ce temps-là, verset 16, « J'ai donné, etc. etc. » Verset 19, « Nous sommes partis. » Verset 20, « Je vous ai dit, etc. » Il raconte toute l'histoire. Verset 23, « J'ai pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu, ils sont repartis. » Il raconte l'histoire de Nombre, chapitre 13 et 14, où on envoie les espions, disons, les éclaireurs. Ils ont fait le rapport suivant, c'est un bon pays, verset 25, mais vous n'avez pas voulu y monter, verset 26, vous avez été rebelles, blablabla. Je vous ai dit, enfin, ouais, on relit comme ça, donc on dit finalement, verset 32, vous n'avez pas mis votre foi dans le Seigneur, votre Dieu, qui marchait devant vous. Verset 36, excepté Caleb. Verset 38, Josué, fils de Noun, qui se tient à ton service et entrera, rend le fort. Donc on a Josué et Caleb qui, eux, entrent dans le pays, mais Moïse lui-même n'y entrera pas. Alors on explique, on a traversé toutes les régions transjordaniennes, hein, donc les Édomites, les Moabites, les Ammonites, donc qui sont les trois peuples transjordaniens. On a rencontré, chapitre 2, verset 10, peuple grand nombreux de haute taille, les Anakites, hein, les Réphaïtes, etc., on en a parlé, hein, les Réphaïm qui sont mentionnés dans Genèse chapitre 6. Les Réphaïm, les géants sont mentionnés dans Genèse chapitre 6. Les Réphaïm, on les trouve à Ougarit. On n'a pas le temps d'y s'y attarder aujourd'hui, mais disons que dans les textes ougaritiques, on se rend compte que les Rapa-Houma, donc les Réphaïm qu'on a en hébreu, sont vraisemblablement des personnages, des rois, défunts, divinisés. Voilà. Mais disons qu'il y a ce côté un peu légendaire, et donc là, les légendes circulent, et on en fait aussi un peu donc soit des géants, soit des peuples mythologiques, disons, des héros. Enfin voilà, donc on raconte ce qui s'est passé, les mésaventures avec, par exemple, Siron, le roi de Heshbon, au verset 30, chapitre 2, verset 30, n'a pas voulu nous laisser passer. Etc., etc. On raconte l'histoire avec Og du Bashan, etc., etc. Bon. Et puis, donc tout ça, ce sont des rappels historiques. C'est le discours de Moïse, ça s'adresse à la nouvelle génération. Et ensuite, on fait une introduction plus précisément sur ce qui vient, en disant, ben voilà, on va instituer des lois, il faut rien ajouter, rien retrancher, il faut les observer, verset 6. Et puis ensuite, on commence tout de suite à avoir une dialectique contre les autres peuples. Dès le chapitre 4, on dit, il est question des autres peuples. Hein, les peuples entendront parler, verset 6, chapitre 4, verset 6, ils diront, cette grande nation est vraiment un peuple sage et intelligent, etc. Et donc, quelle est donc la grande nation qui aurait des dieux aussi proches d'elle que Yahvé, notre Dieu, les de nous, chaque fois que nous l'invoquons. Et donc, finalement, on dit, voilà, nous, on a Yahvé, les autres nations, elles ont leur Dieu, nous, on a Yahvé, mais notre Dieu, Yahvé, c'est lui, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, c'est le nôtre. Alors, quand on dit, il n'y en a pas d'autre, ça ne veut pas dire qu'on nie l'existence d'autres dieux, mais ça veut dire qu'on nie leur statut. C'est-à-dire que, comparé à Dieu, ils ne valent rien. Ils sont insignifiants. C'est la rhétorique. Si je dis à quelqu'un, si je dis, vous n'êtes rien, c'est pas que la personne n'est rien, la preuve lui parle. Mais, en un sens, on parle de sa valeur, de ce qu'elle représente. Et donc les autres dieux, finalement, sont rien comparés à Yahvé. Au pire, même, on peut même dire qu'ils ont, d'une certaine manière, été assimilés. C'est ce qu'on observe dans un certain nombre de milieux. On voit ça en Égypte, on voit ça en Mésopotamie également, où tous les pouvoirs divins sont concentrés en une seule personnalité. En Mésopotamie, c'est quelqu'un comme Marduk, par exemple, à Babylone, qui va concentrer à lui tout seul tous les pouvoirs des autres dieux. Donc on aboutit à une sorte de monolâtrie, on n'adore qu'un seul dieu. Donc là, on condamne évidemment la fabrication des idoles, au chapitre 4 toujours. On avertit le peuple et on insiste à plusieurs reprises en disant que c'est bien Yahvé qui est Dieu. Regardez par exemple verset 35, tu as donc été éclairé pour savoir que c'est Yahvé qui est Dieu, il n'en a pas d'autre que lui. Et de la même manière, quelques versets plus loin, verset 39, c'est Yahvé qui est Dieu dans le ciel en haut et sur la terre en bas, il n'en a pas d'autre. Donc, on ne doit pas faire d'idole. Alors, ça c'est le premier discours global de Moïse. En fait, il y a un autre discours d'introduction, on va avant le chapitre 12, qui commence à la fin du chapitre 4 et qui couvre les chapitres 5 et 6. Donc, et qui a pu être rédigé avant. Il est probable qu'on ait lu donc d'abord le noyau du code deutéronomique, puis qu'on ait ajouté un premier discours, les chapitres 5-6, puis ensuite les chapitres 1-4. Alors, chapitre 5-6, en fait, c'est des discours importants, puisqu'on a des lois générales. Notamment, on retrouve les 10 commandements dès chapitre 5. Vous avez la répétition des 10 commandements. Chapitre 5, regardez verset 6. « Je suis Yahvé ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas de statue, etc. etc. » Et là, vous retrouvez un copier-coller d'Exode 20. Dans Exode chapitre 20, on a déjà vu les 10 commandements. Et bien là, on les retrouve ici. Verset 11, tu n'invoqueras pas le nom de Yahvé ton Dieu pour tromper. Verset 12, tu observeras le sabbat. Verset 15, on continue, on explique qu'on a été... Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quand même des différences entre les 10 commandements dans Exode 20 et les 10 commandements dans le Deutéronome 5. C'est intéressant de les mettre en parallèle. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour ça, mais je vous invite à le faire. Et vous verrez notamment que sur la question du sabbat, la légitimation du sabbat est différente dans les deux textes. Ensuite, on retrouve verset 16, « Honore ton père et ta mère », verset 17, « Tu ne commettras pas de meurtre », etc., etc. Et puis, au chapitre 6, on a un autre verset qui est considéré comme fondamental, qui est un verset de centralisation, verset 4, « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. » Hein, donc, le fameux « Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad ». Alors, souvent, c'est un verset qui a été utilisé notamment pour, comme le verset, une sorte de confession de foi monothéiste, en disant, voilà, il n'y a qu'un seul Dieu, et donc on parle des religions monothéistes, le judaïsme étant la première religion monothéiste, puis le christianisme et l'islam qui suivent. Et on parle des grandes religions monothéistes, etc. En fait, il n'en est rien. La traduction littérale de ce verset, c'est, donc, il y avait... notre Dieu, et un Yahvé. C'est-à-dire, il n'est pas deux Yahvé, ni trois Yahvé, mais un Yahvé. Alors on dit c'est bizarre, parce que si je dis il y a un seul, je sais pas, il y a un seul Christian Grapp, un seul Rémi Gounel, tout ça, ça va nous paraître évident, chaque personne est unique, c'est un nom propre. Il y a un seul Yahvé, ça veut dire quoi? Eh bien en fait, si on remet en contexte, et en contexte historique, notamment la documentation qu'on a de l'époque, donc épigraphique, on a l'attestation de plusieurs Yahvé. Dans certains textes, on a des paroles de bénédiction, et ces paroles de bénédiction font, par exemple, « Je te bénis par le Yahvé de Samarie ». J'en parlais tout à l'heure. Et il y a l'attestation « Le Yahvé de Samarie ». Il fait mention du Yahvé de Théman. Théman, c'est en Arabie. Donc, on a bien la mention de Yahvé, le dieu dont il est question ici, le tétragramme, mais il est associé tantôt à un lieu, tantôt à un autre. Alors, viennent d'être publiées tout récemment, notamment des inscriptions qui viennent d'un site archéologique qui s'appelle Kuntilet Ajlud. Alors, le site a été fouillé il y a plusieurs décennies, et les inscriptions, on les connaît depuis plusieurs décennies, mais la publication officielle se faisait attendre. Donc on en parle depuis très longtemps. Moi, on a déjà des photos, etc. Enfin bref, donc moi, je fais souvent référence à ces inscriptions, mais la publication elle-même, elle date de cet été. Donc, vous voyez, c'est tout frais.
Ah, donc déjà, c'est ça le polyyavisme ?
On peut parler de polyyavisme, oui. Pourquoi pas ? Oui, non, pourquoi pas ? C'est-à-dire que polyyavisme, ça pourrait... Oui, c'est ça, polyyavisme. Disons, le dieu lui-même est le même. Et dans certaines mesures, ses attributs sont les mêmes. La façon de le vénérer peut être différente, éventuellement. On ne sait pas, on n'a pas forcément beaucoup de détails sur, concrètement, comment fonctionnait le temple sur le mont Garizim. On n'a pas d'informations de l'époque. On a retrouvé quelques vestiges de ce temple sous des vestiges d'une église byzantine. Si vous voulez tout savoir, c'est souvent comme ça. Les sites archéologiques, c'est la stratigraphie, il faut fouiller sous. Donc là, en fait, ce qu'on observe qui est très beau, c'est une belle église byzantine octogonale. Mais dans un coin, en dessous, on a des vestiges de l'époque du fer, donc de l'époque avant l'exil à Babylone, si vous voulez. Et donc, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour connaître le fonctionnement exact. On a aussi des bénédictions qui disent « Je te bénis par Yahvé ». Et son achéra, et l'achéra, c'est un poteau cultuel, une sorte de grand poteau de bois qui servait au culte. Donc il y en avait vraisemblablement un là-bas. Bon. Alors ce poteau cultuel, dans certains textes, il est également, il y a une personnification. Et c'est une divinité femme à ce moment-là. Donc on a même pensé à un moment donné qu'il y avait un couple, Yahvé et la déesse, la parèdre, ce qu'on appelle la parèdre dans les religions du Proche-Orient ancien, donc la déesse Ashéra. Sauf que dans la fameuse mention, toujours qui est à Kuntilet Ashrud, on a dans d'autres textes, mais qui notamment est à Kuntilet Ashrud, en fait, Ashéra ici est un nom commun et pas un nom propre, parce qu'il est doté d'un suffixe pronominal. Bon, c'est un peu des détails de grammaire, mais donc il semblerait que dans ce texte-là, ce ne soit pas le nom propre, mais le nom commun, qui est un poteau culturel. En tout cas, on n'a pas beaucoup d'informations. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, et c'est vrai pour Yahvé, mais c'est vrai pour d'autres dieux, les dieux sont associés à des lieux géographiques, et on peut trouver des cultes à un même dieu, mais dans des lieux différents, et donc avec, évidemment, des particularités, puisque chaque lieu va avoir son identité. Donc, dans des textes, on a le Yahvé de Samarie, le Yahvé de Théman, et on aurait pu trouver le Yahvé de Jérusalem. Je ne crois pas qu'on ait de textes, mais ça, c'est le hasard des découvertes épigraphiques, peut-être on trouvera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait plusieurs Yahvé. Enfin, plusieurs Yahvé. Disons, il y avait plusieurs cultes à Yahvé dans des lieux différents. Et là, ce qu'on vient de nous dire ici, dans ce verset, c'est qu'il n'y a qu'un seul Yahvé. Donc il n'y a pas un Yahvé à Samarie, il n'y a pas un Yahvé à Théman, il n'y a pas un Yahvé, il n'y a qu'un seul Yahvé, et c'est Yahvé à Jérusalem. Enfin, quand je dis Jérusalem, si on prend le Deutéronome dans la forme que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire sa forme rabbinique, judéenne. Mais on dit qu'il n'y en a qu'un seul, et justement c'est peut-être celui de Samarie, j'en sais rien. En tout cas ici on ne dit pas lequel, mais on nous dit qu'il n'y en a qu'un seul. Et donc en fait cette fameuse confession de foi qu'on pensait traditionnellement être monothéiste, en fait on se rend compte aujourd'hui que la traduction, il faut changer la traduction française de ce texte et puis bien faire comprendre en fait qu'il s'agit avant tout d'une loi de centralisation du culte ici. Voilà. Alors alors les chapitres 6, 7, 8 sont très intéressants. On insiste évidemment, bon, la centralisation du culte, on l'a vu, également sur le rapport du peuple à Dieu. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, on rappelle que le peuple d'Israël n'est pas un peuple grand et vénérable et que Dieu ne l'a pas choisi parce qu'il est meilleur que les autres peuples, bien au contraire, on nous dit qu'il est le plus insignifiant de tous les peuples, que les 40 années passées dans le désert ont bien prouvé qu'il était têtu, incrédule, etc., etc. Mais que Dieu développe avec lui, donc cette alliance, que Dieu teste le peuple. C'est ce qu'on voit par exemple au chapitre 8. Hein. Verset 2, tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'affliger, de te mettre à l'épreuve, pour voir ce qu'il y avait dans ton cœur, pour voir si tu observerais ou non ses commandements. Il t'a donc affligé, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, hein, vous vous rappelez l'épisode de la manne, que tu ne connaissais pas, que tes pères n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Alors c'est un verset qui est bien connu aussi, il est repris dans le Nouveau Testament, Jésus le reprend. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, etc. Et donc, on explique bien, on le retrouve un peu plus loin, verset 16, « Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'affliger, de te mettre à l'épreuve, pour te faire du bien par la suite. Et tu te dirais, c'est par ma force et la vigueur de ma main que j'ai acquis toutes ces richesses. » Il dit n'importe quoi, ne va pas dire maintenant que c'est par ta force que tu prends possession. Et là, c'est très important parce que Dieu se présente comme étant celui qui pourvoit, qui crée finalement, et c'est ce qu'on a vu depuis le début, depuis la Genèse, Dieu n'a pas choisi un peuple existant, il a dans une certaine mesure créé le peuple d'Israël, de toutes pièces, à partir d'un homme, d'Abraham. Et on a vu qu'Abraham n'était pas un exemple non plus, il a un peu fait des siennes, que ses enfants, c'était pas beaucoup mieux, que Dieu a fait exprès, justement, pour qu'on ne dise pas que c'était un peuple créé naturellement, il a fait exprès de renverser à chaque fois. Hein, il a pris Isaac et pas Ismaël, il a pris Jacob et pas Ésaü. Etc., etc. Donc, Jacob, en plus, qui est un trompeur, enfin, un petit filou. Donc, on ne peut pas dire que Dieu ait choisi un grand peuple et dit, voilà, manifestement, j'ai là devant moi un peuple vaillant, fort, qui s'est créé, qui s'est fait lui-même et qui est beaucoup mieux que tous les autres. Au contraire, il en prend un qui est non existant, qui fait des siennes, etc., etc. Donc, c'est très important pour que le peuple d'Israël ne s'enorgueillisse pas. Et de la même manière, les victoires que le peuple s'apprête à remporter dans la terre promise ne doit pas dire nous sommes un peuple guerrier, pas du tout. Chapitre 9, verset 4, « Lorsque le Seigneur ton Dieu les repoussera devant toi, ne te dis pas, c'est à cause de ma justice que le Seigneur me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que le Seigneur les dépossède devant toi. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que le Seigneur les dépossède. » Verset 6, « Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice. » Il le dit à trois reprises, hein, c'est au cas où ils n'auraient pas compris, c'est très clair. « Car tu es un peuple rétif. » Ah, c'est ça. Donc, il est question à chaque fois du fait que c'est vraiment Dieu qui intervient, que c'est Dieu qui leur donne la victoire, et c'est déjà ce qu'il a fait dans le désert, hein, la manne, les miracles, etc., l'exode, les plaies, etc., d'Égypte. Tout ça, c'est pour montrer qui Dieu est, que Dieu se révèle à ce peuple, et que ce peuple ensuite choisisse d'obéir à Dieu. Donc voyez en quoi tout ça, ça constitue une introduction importante à ce code de loi. Et c'est ça qui pèse, disons, et qui légitime le fait que Dieu leur demande d'obéir. Alors en même temps, Dieu se révèle aussi comme étant un Dieu d'amour, un Dieu qui veut faire du bien, en disant « je t'ai affligé, je t'ai fait souffrir ». Mais le but, c'était pas que j'avais du plaisir à te faire du mal, c'est que c'était nécessaire pour que tu puisses comprendre, pour pouvoir te tester, et puis pouvoir ensuite te faire du bien. Et donc, au chapitre 10 encore, verset 12, « Israël, que demande de toi le Seigneur ton Dieu, si ce n'est que tu craignes le Seigneur ton Dieu, en suivant toutes ses voies, en aimant et en servant le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, en observant les commandements du Seigneur et ses prescriptions, telles que je les institue pour toi aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Afin que tu sois heureux, vous voyez, hein, c'est au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent le ciel et le ciel du ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, etc., etc. Et donc, il y a l'idée d'avoir cette relation d'amour avec Dieu également. Et il y a une expression importante, verset 16, « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne vous montrerez plus rétif. » Alors, cette notion de la circoncision du cœur est très importante parce que la circoncision, c'est le symbole de l'alliance entre Dieu et Abraham. Hein, rappelez-vous, dans la Genèse, Dieu fait cette promesse à Abraham, « Je te donnerai sa terre à toi, à ta postérité, tu auras une postérité nombreuse. » Donc la promesse d'une postérité et d'une terre, c'est la promesse faite à Abraham, et le signe de cette alliance éternelle, c'est la circoncision. Mais Dieu ne veut pas d'une alliance qui soit une alliance uniquement dans les textes, une alliance uniquement, comment dire, formelle, légale. Il veut qu'il y ait une relation qui soit une relation proche, une relation personnelle, pas uniquement une relation juridique. Et donc ce code de loi qui va suivre, Dieu ne veut pas qu'il suive ce code de loi, je ne sais pas comment dire, mais bêtement en pinaillant, en cherchant, vous savez comment ça se passe, tous les avocats, enfin, peut-être, il y a peut-être des avocats ici, j'en sais rien, mais je veux dire, enfin, on voit bien comment ça se passe aujourd'hui, les gens passent leur temps à essayer de contourner la loi, trouver la faille pour arriver, là, il y a les scandales sur Apple, Amazon et Google et Microsoft, tout ça, qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils trouvent des moyens pour, tout en restant dans la loi, arriver, etc., pour ne pas payer d'impôts, quoi. Donc les gens font... Voilà, quand on est quand on rentre dans ce cadre-là, dans cette vision-là, bah, voilà, on cherche à pinailler. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il veut. Et donc, il veut pas d'une circoncision qui soit uniquement formelle, extérieure, superficielle. Et donc, il est question aussi, il y a une expression nouvelle, il est question de la circoncision du cœur. Autrement dit, cette alliance qu'on conclut avec Dieu, ça va être une alliance dans le cœur. Et une alliance intérieure et pas extérieure. Alors là encore, c'est une notion extrêmement importante qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament. Paul la reprend dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, où il revient sur cette question de circoncision du cœur. Et dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, d'ailleurs, il insiste aussi sur le fait qu'Israël n'est pas un peuple plus important que les autres, parce qu'il a affaire à des Juifs, à l'époque, qui disent « mais nous avons reçu l'Alliance ». Nous sommes le peuple dépositaire, nous sommes le peuple élu, donc on est mieux que les autres. Voilà. Et quand Paul leur annonce l'évangile, quand il leur annonce Jésus-Christ, ils disent « mais on ne veut pas de ça, on n'en a pas besoin, on a déjà tout ce qu'il nous faut, de toute façon on peut faire ce qu'on veut, de toute façon on est sauvé quoi qu'il en coûte, puisque voilà, on a la circoncision, on a les patriarches, on a Abraham pour père, on a la Torah, on a la Bible, donc de toute façon rien ne peut nous arriver, on peut faire ce qu'on veut ». Et Paul s'inscrit en faux en disant « mais pas du tout, si vous n'avez pas la foi d'Abraham, ben, vous ne serez pas justifié ». vous ne serez pas déclaré juste, parce que ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham. Donc, il ne suffit pas d'avoir Abraham pour père biologique, il faut avoir Abraham pour père spirituel. Et c'est la descendance et l'héritage spirituel qui compte, et pas l'héritage génétique. Donc, il dit, ceux qui ne sont pas circoncis, mais qui ont la foi d'Abraham, ce sont ceux-là qui sont les vrais descendants d'Abraham. Et ce sont ceux-là qui seront justifiés, qui seront déclarés justes, qui seront sauvés, si vous voulez. Je ne veux pas rentrer dans les détails de l'Épître aux Romains, je ne fais pas un cours sur l'Épître aux Romains, mais voilà. Et l'argument de Paul, c'est de dire finalement, il n'y a qu'une seule façon d'être déclaré juste, d'être sauvé, c'est par la foi. Et c'est avoir la foi d'Abraham, et la circoncision qui compte, c'est la circoncision du cœur. Et en cela, Paul ne dit rien de nouveau, il ne fait que reprendre ce qui est dans le Deutéronome. Toute l'Épître aux Romains, d'ailleurs, est truchée de citations du Deutéronome, des psaumes, surtout du Deutéronome, des psaumes, des prophètes aussi, Isaïe, enfin quelques autres, Osée, enfin voilà. Mais toute l'argumentation, le chapitre 9, il reprend l'exemple, Ésaü, Jacob, il reprend Pharaon, enfin, vous ne pouvez pas comprendre l'Épître aux Romains si vous n'avez pas compris la Bible hébraïque. Et si vous avez bien compris la Bible hébraïque, finalement, quand vous lisez l'Épître aux Romains, vous dites, bah oui, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Bon, voilà. Alors, on conclut ce chapitre d'introduction par la bénédiction et la malédiction. Chapitre 11, verset 26, « Regarde, je place aujourd'hui devant vous bénédiction et malédiction. La bénédiction si vous écoutez les commandements. La malédiction, verset 28, si vous n'écoutez pas les commandements. » Donc, c'est pas compliqué. Hein. Alors oui, un petit détail technique aussi. Chapitre 11, verset 18, « Vous mettrez sur votre cœur et sur votre âme ces paroles que je vous adresse, vous les attacherez comme un signe sur votre main, elles seront un fronton entre vos yeux. » Vous voyez qu'il y a l'idée qu'il doit y avoir une intériorisation de cette révélation divine. Cette Torah, alors c'est traduit souvent par « loi » en français, ce qui est mauvais. Torah, ça veut dire « instruction », donc c'est ce que Dieu nous enseigne, l'enseignement divin. Donc cet enseignement que Dieu nous donne, cette Torah, que Dieu nous donne, il faut l'intérioriser, elle doit être dans le cœur. On l'a vu tout à l'heure, les questions de la circoncision du cœur. Et donc, il dit, il est question d'être un signe sur la main et un fronton entre les yeux. La main et le front sont des symboles. La main, c'est l'action, et le front, c'est la pensée. Donc, dans ce que je pense et dans ce que je fais, je dois voir, finalement, cet enseignement divin doit se traduire dans ce que je pense et ce que je fais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une application littéraliste de ces textes, et c'est la traduction que vous voyez aujourd'hui dans le judaïsme, avec les phylactères. Et vous avez des petites boîtes qui sont attachées autour de la main, et des fois, ils ont des lanières qui font des tours, ils ont une petite boîte sur la main, et aussi attachées autour du front, ils ont une petite boîte sur le front. Et donc, cette tradition, qui est ancienne, hein, elle date déjà de l'époque du Second Temple, c'est-à-dire tournant de notre ère, à l'époque de Jésus, si vous voulez, ça existait déjà, cette tradition, on en a retrouvé sur les sites archéologiques. Et on les a dans les textes de l'époque. Donc, mais ça veut dire que dans le judaïsme ancien, en fait, on a compris ce texte, ah bon, d'accord, donc il faut qu'il y ait un signe sur le front et sur la main, donc sur le front et sur la main, on met des versets, donc ce sont des petites boîtes avec à l'intérieur des extraits, des versets, bah, notamment ceux-là, etc., qui sont attachés là. Alors ensuite, vous avez donc le code deutéronomique des chapitres 12 à 26. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà vu. J'ai déjà expliqué donc la centralisation du culte, le lieu que Yahvé, votre Dieu, choisira. Je m'arrête sur quelques petites choses nouvelles. Chapitre 13, par exemple, il est question des prophètes. Verset 2. Si se lève en ton sein un prophète. Et qu'arrive, donc il y a un prophète qui vient, qui donne une prophétie, verset 3, et qu'arrive le signe ou le prodige dont il t'a parlé, en disant, suivons d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Alors c'est intéressant, parce qu'il est question d'un prophète. Alors parfois dans les Bibles, on parle de faux prophètes. Dans l'intitulé, je ne sais pas si vous avez un en-tête dans votre Bible, on lit attention, mise en garde contre les faux prophètes. Mais sauf que là, en l'occurrence, ce n'est pas un faux prophète, puisqu'il dit quelque chose et la chose arrive. Donc le faux prophète, ce n'est pas forcément le prophète qui dit quelque chose et la chose n'arrive pas. C'est il dit quelque chose et la chose arrive, mais c'est un prophète qui vénère un autre dieu et qui invite le peuple à vénérer d'autres dieux. Et dit, il ne faut pas le faire. Et verset 4, on explique, on dit, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur. Donc il dit, attention, c'est un piège. C'est une mise à l'épreuve. Donc il ne faut pas écouter. Quant à ce prophète, verset 6, il faut le mettre à mort. On revient, je saute tout de suite au chapitre 17, ou 18, non, c'est plutôt 18, voilà, c'est ça, chapitre 18, on retrouve la même chose sur la question des prophètes. Il est question, de manière générale, de la divination, de la magie, de la sorcellerie, etc., versets 9, 10, etc., etc., les médiums, les spirites, etc., verset 11, tous ces gens-là, il ne faut pas les écouter. Le prophète est mentionné au verset 15. Et on explique bien que le vrai prophète, c'est celui, verset 18, donc on dit, je susciterai parmi, pour eux parmi leurs frères un prophète comme toi, c'est-à-dire Moïse, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. C'est ça la définition d'un prophète. Le vrai prophète, c'est celui dans la bouche duquel Dieu met les paroles, et ce qu'il dit, c'est ce que Dieu lui demande de dire. Verset 20, « Mais le prophète qui aura l'arrogance de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. » Donc s'il parle au nom d'autres dieux, et même si la chose se produit, mais qu'il parle au nom d'autres dieux, il faut le mettre à mort. Et s'il parle dans le nom de Yahvé, s'il dit « Voilà, ainsi vous dit Yahvé », alors qu'en fait Yahvé n'a pas du tout dit ça, il faut le mettre à mort aussi. Donc là, il y a quand même une loi qui encadre l'activité prophétique. Alors bon, après ça, il y a des règles alimentaires, des remises de dettes, chapitre, donc ça c'est 14, 15, etc. Chapitre 16, on retrouve les fêtes, la Pâque, la fête des semaines, donc la Pentecôte, la fête des huttes, Soukhot, etc., etc. Bon, tout ça, je passe parce que vous avez déjà vu ça, donc vous pouvez comparer avec ce qu'il y a dans le Lévitique. Regardez Lévitique 23, qu'on a vu la dernière fois, regardez Exode 23. On est là dans la répétition, je te disais. Alors, chapitre 17, on a une règle concernant le roi. Verset 14. « Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras, je veux placer un roi à ma tête comme toutes les nations qui m'entourent. Tu pourras placer un roi à ta tête. Mais, verset 16, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte. Verset 17, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Donc, il ne faut pas avoir beaucoup de chevaux, il ne faut pas avoir beaucoup de femmes. Afin que son cœur ne s'écarte pas, qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Donc, vous voyez, il y a trois choses. On dit, il ne faut pas beaucoup de chevaux, pas beaucoup de femmes, pas beaucoup d'argent et d'or. Il faut limiter. Et puis surtout, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres lévites. Il devra l'avoir avec lui et la lire tous les jours de sa vie. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit, d'accord, on peut avoir un pouvoir royal. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, dans le contexte narratif, c'est-à-dire le contexte dans lequel s'inscrit le Deutéronome, on nous présente ça comme étant le discours de Moïse. Donc, ça ne présume rien de la date de rédaction de ce texte. Ça nous présente le contexte dans lequel ce texte se présente. On nous dit, c'est Moïse, donc il n'y a pas de roi encore. Mais on anticipe le fait que le peuple voudra un roi. En fait, plus vraisemblablement, le texte a été rédigé plus tard, à une époque où il y a déjà des rois et où on cherche à limiter le pouvoir royal. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit d'abord que ce pouvoir est soumis au pouvoir sacerdotal, puisque la loi, il doit la prendre auprès des prêtres lévites, donc on est bien dans le pouvoir sacerdotal, le pouvoir religieux. Donc le roi est assujetti, le pouvoir royal est assujetti au pouvoir sacerdotal. Le roi doit chercher, donc demander entre guillemets la permission aux prêtres, etc. Et puis surtout, on lui dit attention, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire cela. Dans d'autres textes, c'est encore pire. Si vous prenez le rouleau du Temple, donc qui est un autre texte du type du Deutéronome, qu'on a retrouvé à Qumran, et dont une traduction, une édition bilingue va paraître l'an prochain, si tout se passe bien. Elle est prête, c'est moi qui l'ai faite, et elle devrait être publiée l'an prochain, vous verrez. On est encore plus restrictif. D'abord, il ne doit avoir qu'une seule femme, en plus. Donc comme ça, c'est réglé, etc. Donc le texte est encore plus restrictif. Donc en fait, on cherche à encadrer le pouvoir royal. Donc ça, c'est spécifique au Deutéronome. Vous n'avez pas ça dans les livres qui précèdent. Donc je vous le signale pour que vous voyez un petit peu ce qui est un petit peu spécifique. Donc encadrement de l'activité prophétique, encadrement de l'activité royale. Ce sont les trois types de pouvoir. Vous avez trois types de pouvoir. Vous avez le pouvoir royal, le pouvoir sacerdotal et le pouvoir prophétique. Il y a d'ailleurs, je crois, il y a eu un colloque avec un livre qui est paru, Roi, prêtre, prophète, quelque chose comme ça, au Proche-Orient ancien et dans la Bible, ou un truc comme ça. Je ne me souviens plus très bien. En tout cas, c'est un thème récurrent. On regarde les trois rôles, les trois personnages qui ont un rôle important dans la société, et c'est souvent ça. Et là, on voit bien clairement que dans le Deutéronome, le prophète et le roi sont tous les deux, on dit attendez, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et ce sont bien sûr les prêtres qui encadrent tout ça. Alors chapitre 19, les villes de refuge, on a déjà vu. Chapitre 20, on a des règles pour la guerre également. Bon, on en avait déjà parlé un petit peu. Là, il y a des choses nouvelles malgré tout dans le Deutéronome qui sont intéressantes. Des exemptions notamment. On dit quelqu'un, par exemple, qui vient de construire une maison, verset 5, ou qui a planté une vigne, verset 6. Quelqu'un qui s'est fiancé, verset 7. Qui s'est fiancé avec une femme ne l'a pas encore prise, qu'il s'en aille et rentre chez lui de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre ne la prenne. Bah, le pauvre, quand même, il vient de se marier. D'ailleurs, vous retrouvez ça un peu plus loin, chapitre 24, verset 5. Chapitre 24, verset 5. Lorsqu'un homme vient de prendre une femme, il ne partira pas à l'armée, on ne lui imposera aucune charge, il sera exempté pour raison de famille pendant un an et il réjouira la femme qu'il a prise. Moi, j'aime bien ça comme verset. C'est pas mal, ça. Un homme qui vient de se marier, ben non, il ne va pas à la guerre. Pendant un an, il réjouit sa femme. Bon, après ça, il peut aller faire la guerre. Voilà. Alors, bon, il faut qu'on accélère parce que l'heure tourne. Y a des règles qui parlent de la guerre, c'est intéressant. Y a différents types de supplices. Alors, chapitre 21, verset 22... Il y a une polémique également. J'essaie de faire des petits commentaires rapides sur des versets choisis. Si un homme coupable d'un péché passible de mort a été mis à mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, tu l'enseveliras le jour même. Bon. Alors, on se pose la question de savoir, c'est un meurtre par... Alors, est-ce que c'est un meurtre par pendaison ? Alors, pendu à un bois, c'est peut-être pas une pendaison avec une corde. Hein. Ça peut être... c'est plutôt... Alors, soit une forme de crucifixion, soit une forme d'empalement. C'est plutôt de ça dont il s'agit qu'une pendaison avec la corde. Hein. Donc c'est un texte qui est intéressant parce qu'on le met en comparaison avec ce qui se passe à l'époque, en Mésopotamie notamment, où on voit justement il y a des supplices, on empale les gens sur les bois, puis on les décroche ensuite. Et là on a aussi des supplices où on accroche les gens à des bois, et il est question de bois jumeaux, didymes, c'est-à-dire des bois fourchus, puisque ça permet de mettre un bras de chaque côté. Donc ce serait plutôt un type de crucifixion. Et là, la question, c'est est-ce que la mise à mort se fait par ça, c'est-à-dire que la personne est vivante et on la tue de cette façon-là, ou est-ce qu'on la met à mort d'abord, et ensuite on expose le cadavre ? Parce que c'est aussi une autre méthode qui est connue, c'est-à-dire qu'on tue quelqu'un, et plutôt que de l'enterrer tout de suite, avant de l'enterrer, on expose le cadavre. Donc est-ce qu'il s'agit d'une exposition du cadavre, ou est-ce qu'il s'agit d'un supplice ? Le texte, dans la texte massorétique, le texte est ambigu. Mais là encore, je vous ai parlé tout à l'heure du rouleau du temple, et bien dans le rouleau du temple, la syntaxe est légèrement différente, l'ordre des verbes est différent, et la syntaxe est différente, ce qui fait que c'est très clair que l'homme est coupable, qu'il est pendu au bois, et ainsi, il est mis à mort. Donc c'est très clair que la pendaison au bois est un supplice. Donc il y a des discussions par rapport à ça chez les exégètes. On la retrouve si vous regardez la Septante, traduction version grecque ancienne, si vous regardez la littérature rabbinique, etc., etc. Il y a toute une polémique, enfin, il y a des discussions autour de ce passage-là. Alors, d'autres versets amusants, chapitre 2, verset 5, une femme ne portera pas un habillement d'homme et un homme ne mettra pas un manteau de femme. C'est ce qu'il y a longtemps, dans la culture judéo-chrétienne, c'est ce qui a longtemps empêché les hommes, par exemple, de mettre des robes, par exemple, où les femmes n'aient pas à mettre des pantalons, etc. Bon, c'est très drôle parce qu'à l'époque, évidemment, les hommes avaient des robes et pas des pantalons, enfin bref. Bon. Alors, il faut que je me dépêche, je vois que... Alors, il y a des règles, chapitre 22, sur les litiges en cas de mariage, qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Concrètement, si quelqu'un couche avec une femme, il faut l'épouser, sauf si c'est de l'adultère, auquel cas, il meurt. Voilà. Je vous résume ces passages-là. Je saute un petit peu. Alors, oui, les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais quand même qu'on conclue... Donc jusqu'au chapitre 25, 26, tout ça, vous avez les textes législatifs. Chapitre 27, on retrouve, on a fini le code deutéronomique, on revient sur les derniers chapitres, qui sont des chapitres de conclusion. Et là, donc, vous avez une législation. Il faut, verset 4, vous passerez le Jourdain, vous dresserez au mont Ebal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser. Alors, la question se pose sur l'identification du mont Ebal et du mont Garizim. Est-ce que c'est vraiment là où on les situe aujourd'hui, c'est-à-dire en encadrement de la ville de Sichem? Ou est-ce que c'est un lien avec Gilgal, puisque quand Josué traverse le Jourdain, il dresse 12 pierres, mais c'est à Gilgal. Donc certains situent le mont Ebal, en fait, dans la vallée du Jourdain, et pas là où c'est actuellement. En tout cas, il y a ce phénomène donc, de bénédiction et de malédiction, avec 6 tribus d'un côté, 6 tribus de l'autre. Du coup, bon, on n'a pas le temps vraiment de discuter. Alors, chapitre 28, on a encore toute une liste de bénédictions. Hein, verset 2, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi, qui t'attendront. Alors, vous avez toute une liste de bénédictions, c'est formidable. Ensuite, au verset 15, vous avez toutes les malédictions qui s'abattront si le peuple est infidèle. Ça, c'est une structure standard de traité d'alliance. Quand vous regardez tous les traités d'alliance, y compris d'alliance politique entre deux rois, deux pays, etc., etc., et ça, vous avez dès le deuxième millénaire, vous avez des traités d'alliance. C'est un volume énorme qui vient de sortir en 2 tomes cette année, édité par Kenneth Kitchen, qui est un égyptologue à l'Université de Liverpool. Il a ces trucs. Il a compilé tous les textes de loi du Proche-Orient ancien sur lesquels on a ce type de traité d'alliance. Et vous voyez qu'à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais disons que c'est assez standard, c'est qu'en conclusion, vous avez une liste de bénédictions et malédictions. Et des appels à témoins. Sauf que là, les appels à témoins, on les verra un peu plus loin. Ce sont le ciel et la terre qui sont appelés à témoins. Dieu ne peut pas appeler à témoins d'autres dieux, puisque d'habitude, ce sont les dieux qui sont appelés à témoins. Bon, enfin voilà, donc vous avez toute cette liste de bénédictions et malédictions. Je continue, vous avez encore un autre discours. Alors, on revient sur la circoncision du cœur, chapitre 30, verset 6. Vous voyez que les derniers chapitres font écho au premier chapitre. Hein. Je suis obligé, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais quand je vous dis qu'il y a vraiment un encadrement, c'est que vous avez vu qu'il y avait question Ebal et Garizim avant et après, il y avait bénédiction, malédiction avant et après, il y a la circoncision du cœur avant et après, on la retrouve, hein, chapitre 30, verset 6, le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur, etc., etc. Et puis à la fin... Donc il y a des paroles fabuleuses à la fin du chapitre 30, verset 15. « J'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je te donne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur, de suivre ses voies, afin que tu vives, etc. » Verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » Je disais, dans les traités de vassalité en général, ce sont des divinités, mais là, évidemment, c'est le ciel et la terre. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » C'est fabuleux comme texte, je ne sais pas. Bon, c'est vraiment... Donc voilà, il y a cette parole importante. Et là, ça pourrait s'arrêter là. Mais sauf que vous avez encore droit à un autre discours d'adieu. Je dis, ça n'en finit pas de finir. Hein. Chapitre 31, Moïse alla dire ces paroles à tout Israël. Il leur dit, j'ai aujourd'hui 120 ans. Bon, voilà, il commence à se faire vieux. Donc du coup, il y a de nouveau... on nous raconte de nouveau ce qui se passe. Ensuite, on a un chant de Moïse, chapitre 32. On dit, bon, voilà, il chante, ça y est, c'est fini. J'ai pas le temps de m'y arrêter, mais c'est évidemment des textes qui sont très denses d'un point de vue théologique. En particulier, on nous parle de Jacob, donc qui est Israël, et d'autres, de Yeshurun au verset 15, qui est un peu énigmatique, mais on en reparlera au chapitre 33, on retrouvera ça dans Isaïe 44. Bon, bref, j'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus. On se dit, ça y est, il est mort. À la fin du chapitre 32, il est question de la mort de Moïse, tu mourras dans la montagne où tu vas monter. Eh bien, en fait, non, c'est pas encore fini. Chapitre 33, on a de nouveau une bénédiction que Moïse prononce. Alors, il bénit chacune des 12 tribus d'Israël. Alors, ça vous rappelle Genèse 49, puisqu'on avait la même chose avec Jacob qui bénissait... enfin, c'était pas toujours des paroles vraiment bénédictions, en tout cas, qui avait des paroles prophétiques sur chacun de ses 12 fils. Et là, de nouveau, il y a sur chacune des 12 tribus d'Israël. Donc, on se dit, bon, bah, est-ce qu'enfin il va mourir? Et là, chapitre 34, enfin, ça y est, il meurt cette fois-ci. Et même là, il y a des variantes, disons, dans les traditions, puisque il meurt, verset 5, et puis verset 6, il l'ensevelit, personne ne sait où est sa tombe. Alors, il l'ensevelit, qui ça? Est-ce que c'est on l'ensevelit, c'est-à-dire il, le peuple, on l'ensevelit? Est-ce que c'est Yahvé qui a enseveli Moïse, puisque personne ne sait où est sa tombe? Etc., etc. Et en fait, dans certains manuscrits, en fait, donc le texte dit « on ne sait pas où est sa tombe », et en fait, certains manuscrits disent « on sait où est sa tombe ». Donc il y a des traditions qui se développent autour de Moïse. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Peut-être qu'il est monté au ciel, en fait. Élie est monté au ciel, Noé est monté au ciel, peut-être que Moïse aussi est monté au ciel. Mais non, mais non, mais non, il est mort. D'ailleurs, on sait où il est enterré. Mais non, il est mort, on ne sait pas où il est enterré. Mais pourquoi on ne sait pas où il est enterré? Du coup, on ne peut pas vénérer son tombeau. Donc, il y a tout un tas de traditions conflictuelles qui se développent autour de ces versets. Selon les manuscrits, vous avez des différences et dans les traditions différentes. Toujours est-il que, ça y est, Moïse quitte la scène et c'est Josué qui va prendre la suite. Mais vous remarquerez qu'on n'est toujours pas en terre promise, qu'on n'a toujours pas pris la terre promise, donc en un sens, l'histoire n'est pas finie. Donc, en un sens, le Deutéronome est censé clore le Pentateuque, on dit ça y est, c'est la Torah, le Pentateuque, les cinq premiers livres, les livres de Moïse, ça y est, c'est fini, mais en fait, pas du tout. Quand vous lisez le Deutéronome, il faut lire dans la foulée le livre de Josué, et vous verrez que le livre de Josué a le même style de rédaction et les mêmes expressions caractéristiques que celles du Deutéronome. On en reparlera jeudi prochain. Je vous souhaite une bonne semaine, bonne lecture. Vous avez certainement déjà commencé à lire le livre de Josué, parce qu'on est un petit peu en retard, mais on fera le livre de Josué jeudi prochain. Bonne semaine à tous. Alors, j'ai du temps pour des questions, hein, si ça vous